Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Corté. Hier, vous étiez à Rosny avec Antoine Lee en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui, on traverse la Méditerranée et nous voilà ici, à Corté, sur l'île de Beauté. On est place Padoue et c'est jour de marché. Alors je me balade dans cette allée bordée de platanes et avec ses belles façades d'immeubles patinés et un peu chic, je repense à l'article que j'ai lu dans Corse Matin qui raconte que ce quartier, c'est un peu le Neuilly de Corté. Bon, toute proportion gardée, comprenez quartier tranquille, qui sent bon l'immortel et petit havre de paix dominé par la citadelle. Corté, c'est la capitale historique et culturelle de la Corse. Nichée dans les terres, au milieu des montagnes colossales, irriguées par des rivières cristallines et turquoises. Corté, c'est le cœur de l'île, avec comme figure tutélaire Pascal Paoli, héros des Lumières. Il en est le gardien, il en est le père. Et depuis qu'on est arrivé hier, partout on entend « Hey, France Inter, ici c'est le paradis. Vous avez vu la qualité de la vie ? Eh, on est mieux qu'à Paris, non ? Bon, pour trouver du boulot, c'est un peu chaud, faut connaître du monde. Mais on est bien. Oui, on est bien sur la place du marché de Corté. Et on s'est installé ici au Café de France, tenu par Pierre Toussaint. Et avec nos invités, on va parler d'histoire et d'avant-garde, de culture et d'agriculture, et même du futur. Avec vous, Jean-Michel Sorba, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Jean-Michel, vous êtes sociologue et militant écolo.
C'est ça, je suis sociologue à l'INRAE de Corté et je suis militant associatif.
Et avec vous aussi, vous êtes là, Vanina Bernard-Léoni, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vanina, vous êtes directrice du pôle innovation et développement de l'Université de Corté.
Oui, je travaille à l'Université de Corse.
Et vous avez aussi monté un Fab Lab ici.
C'est dans le cadre de la mission dont vous avez évoqué le nom. En fait, on a un tiers lieu dans la vieille ville avec effectivement un grand atelier qui est un Fab Lab et plein d'autres choses pour que plein de gens se rencontrent.
Et à ma gauche, vous êtes là aussi, Bruno Tomasi. Vous êtes agriculteur en permaculture et vous démarrez, enfin vous êtes arrivé ici il y a 4 ans, ça fait pas très très longtemps.
Voilà, on attaque effectivement notre quatrième année de production pour essayer de nourrir, ou en tout cas de contribuer au fait de nourrir la population.
Et c'est ensemble, au Café de France, au marché de Corté et sur France Inter, qu'on se commande des petits cafés et on se retrouve juste après. Le temps d'écouter quoi, Jean-Michel Sorba ?
Céleste, Tonight, Tonight, de Djoukama.
Non.
C'est le choix de qui ? Eh bien, de Chewbacca.
Comme dans voilà. Star Wars.
I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. And I'd rather be myself, although it's nervous and unsure. Looking for your shadow in the light beneath the door. And I want you all so badly. More.
écoutez France Inter et nous avons rendez-vous là tout de suite sur la place du marché ici à Corté, en terre corse. Nous sommes installés sur la terrasse du Café de France et si bien accueillis par le patron Pierre Toussaint. On est pas mal ici. Hein.
Bonjour, eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde est content d'être ici.
Pierre Toussaint, ce Café de France, il a 100 ans.
Effectivement, nous devions fêter les 100 ans au mois d'octobre dernier. Suite donc au Covid, on n'a pas pu le faire, donc j'espère qu'on pourra le faire cette année. Ce sera différé d'un an, c'est tout. Il aura 101 ans le 20 octobre 2021.
Avant ici, ça s'appelait le Cercle Artistique.
À l'origine, à la création de l'établissement, ça s'appelait le Cercle Artistique, et qui a été créé par M. Andros et qui était un ami fidèle de Fernandel. Voilà pourquoi, à l'époque, ça s'appelait le Cercle Artistique. Et je pense qu'on est dans la continuité parce qu'on aime bien faire les spectacles, on aime bien faire les soirées, et voilà.
Vous connaissez nos invités ? Jean-Michel Sorba, Vanina Bernard-Léoni.
Je connais pratiquement tout le monde, c'est tous les clients du bar, donc voilà.
Hein. Bruno Tomasi.
C'est un voisin de chez moi.
Comment vous pouvez qualifier l'ambiance un peu de cette place Padoue ici à Corté ?
Écoutez, moi franchement, ça fait longtemps que je souhaitais que le marché se produise sur la place Padoue. Je pense que c'est une place qui s'y prête, avec elle est ombragée, au centre-ville, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pensé les producteurs, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Après, quand on dit c'est un œil... Une nuit Cortenay, bon, c'est un peu exagéré, je trouve. Hein. Là, les taxes vont encore augmenter, alors si vous dites ça.
Ouais. Déjà que les loyers sont chers.
Exactement.
Vous êtes Cortenay.
Ah, moi, je suis né à Corté, je vais à Corté depuis toujours et j'espère finir mes jours à Corté, voilà.
Et quand vous serez à la retraite, c'est votre fils qui reprendra le Café de France ?
J'espère bien prolonger, donc ce sera dans la continuité.
Et si jamais il ne veut pas reprendre ?
Bah écoutez, moi je ferai tout pour qu'il reprenne. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on a construit, on a envie de le laisser aux générations qui suivent. Hein.
Pour ne pas que ça se perde. Bon, on va boire notre petit café. Hein.
Allez, je vous en prie.
Je vous laisse travailler.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Oui, on a tout pour réussir ici, les gars. Hein. On a les ressources qu'il faut, on a le soleil, il faut la volonté. Et il faut être aussi un peu aidé, peut-être aussi. Il faut qu'on nous aide aussi. Voilà.
Jean-Michel Sorba, comme le dit Pierre Toussaint, on a tout pour réussir ici.
Oui, disons qu'on a une tradition agricole, une tradition même d'entreprise hein, qui est importante. On a tout pour réussir, mais les atouts, ça fait pas forcément de suite, ça produit pas de suite des richesses et du développement. Il faut à un moment donné apprendre à s'organiser collectivement pour mobiliser ses richesses et produire de la valeur. Quoi. On a encore pas mal de choses à faire lorsqu'on sait, par exemple, qu'on est dépendant sur le plan alimentaire de quasiment 10%, on produit 10% de ce qu'on consomme. On a un certain nombre d'indicateurs on pourrait dire de santé régionale qui ne sont pas bons. Hein.
C'est-à-dire
ben, par exemple, on a le taux de pauvreté le plus élevé de France. Hein. C'est des choses qui sont peu connues, ça. Ouais. On a une démographie qui est galopante, mais du simple fait de mobilité et pas du taux de natalité. On a un taux.
C'est-à-dire, le mobilité, ça veut dire que la Corse est terre d'accueil. C'est ça que vous voulez dire.
Terre d'accueil, mais c'est un accueil qu'il va falloir réguler à un moment donné, ne serait-ce que pour la capacité à nourrir les populations, à pouvoir les héberger correctement, à prévoir des mobilités qui ne tournent pas le dos aux urgences écologiques. Il y a vraiment une nouvelle politique à mettre en place, selon moi, qui a quelques rapports avec le défi écologique qu'on connaît de partout sur la planète.
Alors Jean-Michel Sorba, vous êtes sociologue, et là vous soulevez un point important, c'est le taux de pauvreté de la Corse, en effet, qui est mal connu, qui est le plus haut de France, vous venez de le dire. La générosité aussi de la Corse, l'ouverture de la Corse, qui démonte un peu un cliché où on a parfois l'impression que la Corse est repliée sur elle-même.
Tout à fait. Il faut savoir que, grosso modo, la moitié des résidents corse aujourd'hui ne sont pas d'origine corse. Donc c'est vraiment une terre d'accueil, c'est le terme, pour reprendre votre terme. Il est tout à fait justifié et on ressent mal un peu lorsqu'on nous dit que les Corses seraient xénophobes. C'est vraiment pas le cas, puis on le prouve. On peut dire également que les communautés étrangères sont très présentes en Corse, avec des communautés maghrébines, des communautés portugaises, qui sont là pour certaines depuis longtemps, qui sont corses, hein, de troisième génération. Souvent. Donc voilà, la Corse est une terre d'accueil, effectivement. Il faut le rappeler.
On est ici au Café de France. Donc derrière nous, il y a le marché de Corté. Qu'est-ce qui caractérise cette ville de 7500 habitants à peu près ? C'est une ville moyenne. Qu'est-ce qui la caractérise ? Quel est le visage de Corté pour vous, si vous deviez nous en dessiner les contours, Jean-Michel Sorba ?
Il y a déjà des contours historiques. Hein. C'était une ville de garnison qui est passée en 30 ans une ville universitaire. Et il a fallu faire du chemin pour accueillir des étudiants, pour installer des formations, pour mettre des sociabilités, pour héberger les gens aussi. Donc ça a pris du temps pour une université qui, somme toute, est encore très jeune et qui fait une offre très intéressante en matière de formation. Et je pense que le panel, la gamme, mais ça, Vanine, qui est à côté de moi, en parlera mieux que moi, mais le panel de formation est déjà très étendu. Alors, oui, là, nous sommes sur la place, pour préciser le lieu d'où on parle. On est sous la tutelle du général Arrighi de Casanova, qui est un général d'Empire. Hein. Ça, il faut le préciser aussi.
Et on est aussi, Vanina Bernard-Léoni, on est aussi sous la tutelle de Pascal Paoli, qui a écrit la première constitution démocratique en 1755. Cette constitution qui a marqué Jean-Jacques Rousseau, qui écrira plus tard, juste 6 mois plus tard, le contrat social. Et Pascal Paoli, qui est très célèbre aussi pour cette phrase, « Le peuple corse, légitimement maître de lui-même ». Et ça résonne partout dans la ville, ça résonne même partout dans l'île, Vanina.
Oui, c'est quand même la grande figure que vous citez là. Hein. Et en plus, vous êtes à Corté, qui est effectivement la ville qui a hébergé finalement le moment du gouvernement de Paoli sous la Corse indépendante. Donc effectivement, il y a ici quelque chose qui résonne, une énergie un peu particulière et peut-être aussi un sentiment d'héritage dont on essaye d'être peut-être un peu digne.
Quand on est arrivé hier, le patron de l'hôtel m'a dit « Nous, on n'est pas comme ceux du littoral, on vit dans les terres et on préfère se baigner dans nos rivières ». Bon, alors tout de suite, il a donné le ton. Il n'y a pas une Corse, il y a des Corses. Il y a des fractures en France, il y a des ruptures sur le continent. Elles sont aussi visibles ici. Jean-Michel Sorba.
Des ruptures, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, il y a une mosaïque de territoires en Corse et qui est connue, qui est installée depuis pas mal de temps. On sait que chaque région a une spécialité, par exemple. Le centre Corse, le Vénaquais, c'est plutôt une zone d'élevage. Le Cap Corse, on dit que les Cap Corsins étaient des marins. La Balagne, c'est le pays de l'huile d'olive. La Castaniche, de l'artisanat. Voilà, on peut décliner un certain nombre de spécialités. Alors, elles ont tendance à s'éroder avec le temps. Malheureusement, l'artisanat est de moins en moins actif dans l'intérieur. L'agriculture résiste, et encore que ses formes pastorales connaissent un certain recul aussi. Mais effectivement, la Corse est une mosaïque et c'est peu connu, ça aussi. Tout à fait.
Vanina, comment, vous qui êtes directrice d'un Fab Lab, vous êtes dans la Corse de demain, comment réussir à marier cette histoire et ces traditions avec l'avant-garde ?
Je pense que ça, c'est vraiment le propre de toutes les cultures qui, justement, sont vivantes, d'aller puiser dans une logique historique, patrimoniale, ce qu'on a envie de garder, ce qui va nous donner effectivement aussi du sens pour se projeter, en restant effectivement aussi tout à fait contemporain. Et je crois que, toutes les sociétés saines ont besoin de faire ce lien en permanence.
Dans votre Fab Lab, il y a à la fois une imprimante 3D, par exemple, et une machine à tisser.
Oui, en fait, effectivement, on a parfois des représentations un peu caricaturales des Fab Labs et on pense toujours à imprimante 3D. Et en fait, on manque parfois, on va dire, d'une culture technique. Alors, le Fab Lab, pour nous, ça a été une solution pour redonner à un maximum de gens la possibilité de produire, de fabriquer des choses, de retrouver un rapport aux matériaux, une sensibilité aussi à ces sujets qu'on n'a plus. L'objectif pour nous, c'est qu'on puisse retravailler l'ensemble des matériaux locaux pour vraiment permettre à une nouvelle génération d'artisans ou de néo-artisans d'émerger. On sait qu'on ne produit pas assez du point de vue agricole, mais on s'y intéresse à cette question. En revanche, je pense qu'il y a un impensé sur la question de la production artisanale. Ou si ce n'est pas un impensé, c'est quand même quelque chose qu'on considère comme subalterne. On dit que de toute façon, ce qu'on consomme, ça vient d'ailleurs depuis des années et que finalement, ça serait trop coûteux et en termes de compétences et en termes de moyens de prod. Mais je crois qu'on a des choses à réessayer quand même.
Donc vous êtes aussi tous les deux, Jean-Michel et Vanina, dans l'idée de consommer plus local, dans cette idée d'autonomie.
Oui, dans cette idée d'autonomie. Alors, vous le savez, il y a une idée d'autonomie politique en Corse qui est installée maintenant depuis une quarantaine d'années. Mais aujourd'hui, il s'agit de lui donner des prolongements en termes économiques, en termes culturels, et notamment l'autonomie alimentaire, qui est vraiment quelque chose pour l'instant à laquelle on n'est pas préparé. Et puis avec la Covid, on s'est aperçu que les Corses se sont aperçus que leur capacité productive était très faible. Bruno, qui est à côté de nous, va peut-être vous le dire, mais beaucoup de Corses sont allés voir leurs producteurs en leur disant « mais je voudrais tel produit ». Et puis Bruno disait « il va le dire, allez ».
Allez, va le dire Bruno.
Effectivement, avec la crise du Covid, on a vu les chaînes d'approvisionnement des supermarchés avoir des petites problématiques et avoir des produits de moins en moins frais. Et donc très rapidement, les gens sont arrivés chez les producteurs en demandant voilà, est-ce que vous pouvez me fournir ça, ça, ça et ça. Nous, on a été obligés quelque part d'ouvrir les ventes un peu plus tôt, parce que normalement, on ouvre plutôt au printemps, à partir du moment où les productions commencent réellement. Et donc, on a bricolé un peu avec ce qu'on avait.
Vous, vous êtes petit producteur.
Moi, je suis maraîcher sur le centre Corse. Et donc, on a bricolé un peu avec ce qu'on avait. Et
comment vous avez fait pour bricoler alors ?
Ben, on a essayé de dépanner un petit peu tout le monde avec ce qui sortait, mais on n'a pas pu nourrir beaucoup de gens. Et c'était un peu à tour de rôle, voilà, pour contenter le maximum de gens et essayer de sortir les produits qu'on pouvait, quoi.
Donc vous, la crise du Covid, elle a été bénéfique pour vous ou ça a été l'enfer ?
Alors ça a été bénéfique, mais en même temps, ça a été quelque chose d'assez fugace, c'est-à-dire que dès que le confinement a été levé, les gens ont repris leurs habitudes et
sont repartis au supermarché.
Ouais, exactement.
Par exemple, vous, quand vous vendez des tomates, vous les vendez au même prix qu'au supermarché ?
Parfois même moins cher. Je veux dire, moi, une tomate, qu'elle soit rouge, bleu, verte ou peu importe sa couleur, c'est pas parce qu'elle est rare que je vais la vendre plus cher. Parce que mon travail est exactement le même pour toutes les tomates.
Est-ce que le Made in Corsica, c'est le Made in France ?
Alors le Made in Corsica, le Made in France, ça c'est un vaste débat. Ce que je peux vous dire, c'est que la Corse a beaucoup d'appellations d'origine protégées qui se fondent sur l'origine. Donc, en France, on est bien positionné en tout cas. Par contre, les produits du quotidien, c'est-à-dire les produits du maraîchage, les légumes d'hiver, là, on a très peu de producteurs. Alors, on est très efficace sur les produits emblématiques de la tradition.
Le fromage, la charcuterie.
Le fromage, la charcuterie, la farine de châtaigne, l'huile d'olive. Là, on a vraiment des performances. Par contre, c'est le néant total lorsqu'on parle d'alimenter les populations sur toute la gamme qu'il faudrait alimenter. On ne produit pas de blé. Enfin, voilà, les grands produits alimentaires ne sont pas produits dans notre île. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ben, ce qu'il faut faire, c'est s'employer à limiter la spéculation immobilière. On a le taux de croissance des hyper le plus élevé de France. Alors, chaque fois, j'ai l'impression de répéter ça, mais ça montre quand même le portrait statistique, le portrait de santé de la Corse qui est, nous, on considère que c'est un métabolisme toxique, malade. On a une île qui dysfonctionne.
Est-ce que vous définissez tous ici à cette table comme nationaliste, Vanina Bernard-Léoni?
C'est pas un mot que j'adore, mais c'est vrai que du coup, on peut dire que je suis sympathisante de la famille des mouvements nationalistes. Mais c'est vrai que je préfère largement, moi, éventuellement parler d'autonomisme.
Le terme nationaliste, c'est faire droit à une période historique de cette île-là. De 1755 à 1769, la Corse a été effectivement indépendante. Et le terme autonomiste est beaucoup plus en phase avec la réalité de l'économie européenne aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de nationalistes utilisent ce terme-là un peu comme un rappel à cette histoire-là, mais avec un regard beaucoup plus de gérer ses dépendances. Être autonome, c'est aussi être ne plus supporter quelquefois des autorités étatiques qui sont souvent malvenues.
Comment résoudre la question d'être autonome et ouvert sur le monde ? Pas refermé, pas replié.
Ça, à mon avis, ça s'oppose absolument pas. Au contraire, justement, dans une logique de production où tu as des choses à partager avec les autres, c'est tout l'enjeu, en fait. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir être ouvert aux autres, il faut pouvoir produire, avoir une identité. Sinon, en fait, c'est de la standardisation et ça n'est plus de l'échange, c'est de la domination.
Ça vous dit qu'on aille faire un petit tour dans le marché ? On y va tous ensemble, en petite farandole, hein ? Et on va déambuler un petit peu dans ce marché de Corté qui est petit. C'est pas un énorme marché. On va passer par là.
Très bien, oui. Regardez, on va prendre l'allée centrale du marché.
Ouais. Vous, Jean-Michel Sorba, on dit que vous êtes spécialiste des marchés et des foires en Corse.
Oui, des marchés de proximité, ça fait... Alors qu'à une période, le marché de proximité, le marché local, les foires, étaient des objets qui n'étaient pas trop considérés par les chercheurs, il faut bien le dire. Il y avait quelques exceptions notables en Corse et en France. Mais globalement, c'était quelque chose qui était livré au marché, justement. Les marchés concrets étaient une composante du marché tel qu'on le définit par l'économie orthodoxe. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ce sont des objets de recherche qui retrouve une place dans l'agenda des chercheurs, à la fois pour la sociabilité que ça permet, la proximité des producteurs vis-à-vis des consommateurs. Alors en Corse, on a une petite particularité, c'est que les foires ont toujours été très présentes, notamment depuis le Riaquist, ou cette période, ce mouvement social qu'il y a eu au tournant des années 70.
La réappropriation culturelle.
Voilà, c'est ça, la réappropriation culturelle, artisanale, de la culture technique, etc. Et là, à cette époque-là, il y a les foires qui se sont mises en place, et depuis, elles n'ont jamais cessé d'augmenter. On a plusieurs dizaines de foires qui sont aujourd'hui fédérées dans une fédération des foires avec un label, Fier et Digourcy. Voilà, comme ça j'ai parlé du label, ça fera plaisir à mes collègues.
En face de nous, il y a Johanna, on va aller la voir. Bonjour Johanna, là c'est la fin.
C'est ça, c'est la fin.
Vous avez tout rangé.
8h ce matin qu'on est là. Maintenant on va partir en livraison, on va faire le tour des petits villages, on va livrer ce qu'on a à livrer, puis on va traire ce soir.
Vous êtes éleveuse ?
Au vin Caprin, sur la commune d'Aumès.
La commune d'Aumès, elle est
à 10 minutes de Corté.
Ouais. Johanna, vous travaillez avec vos sœurs.
C'est ça.
Vous êtes les filles de la famille.
Trois filles, trois agricultrices. Une qui fait de la charcuterie sur Corté, la ferme Léonée, sur la RN 200, donc avec mon beau-frère Jean-Max et mon neveu qui a repris la relève. Et moi, je travaille avec ma sœur Paul, donc on a des vaches et des chèvres et des brebis, donc on fait de la viande, du fromage.
Vous, vous avez repris l'exploitation familiale, mais avant, vous avez fait des études de droit. Donc, vous avez arrêté ?
J'ai quand même continué mes études. Mon grand-père voulait à tout prix que je finisse. Donc, j'ai eu mon master 2 de droit. J'étais à un an de finir avocate. J'ai tout arrêté et j'ai récupéré l'exploitation, en fait. Et j'ai voulu réouvrir la fromagerie de ma mère. Ça me tenait à cœur, qui est décédée quand j'avais un an. Donc, j'ai réouvert la fromagerie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
C'était une mission pour vous de tout reprendre ?
Pour moi, c'était essentiel. Je ne me voyais pas tout vendre. Voilà, ils ont travaillé une vie pour avoir tout ça. Donc, dans ma tête, c'était clair et net. Hein. Puis bon, après, c'est une passion. Si tu n'as pas de passion, je pense que ce métier, ce n'est pas la peine de le faire.
Mais vous avez abandonné la carrière d'avocate ?
Oui, j'ai fini mon master. J'ai dit, c'est bon, j'ai eu mon master, vous êtes contente. J'arrête, je fais mon BPREA et je récupère les chèvres et les brebis et les vaches. Et avocate, oui, j'aurais aimé, hein, pourquoi pas. Bon, après, quand je vois mes amis, c'est un peu difficile. Hein. Je suis mieux, je pense, où je suis, hein, ouais. En pleine nature.
Vous êtes heureuse ?
Très heureuse.
C'est quoi une journée pour vous ? Vous vous levez à 5h du mat, vous finissez à 23h ?
On se lève à 5h du matin, on monte faire la traite, des chèvres, des brebis, on arrive, on met notre lait à cailler, on fait notre fromage, notre brooch. Et puis s'il faut livrer, après on repart livrer. Hier soir j'étais sur Calanzane, avant-hier sur Porto Vecchio, donc on rentre à pas d'heure.
On peut regarder ce qu'il y a un peu dans le camion ?
Alors on a du prisout, de la cope, à du londz en charcuterie, des saucisses figadelles, donc on est en Porconoustral, en race corse, donc la ferme Léonelli. On a de la tome de brebis, des crottins de chèvre, du brooch, le fameux brooch, le seul AOP de Corse, bien évidemment, en race corse, parce qu'on se bat pour la chèvre et la brebis corse, bien évidemment. On aime nos animaux, c'est l'essentiel. Hein. Moi, comme je dis, mes animaux, ils passent avant tout. Hein. Si tu traites bien tes animaux, ils te le rendent bien.
Ça fait du bien d'entendre ça, Johanna, vraiment.
Vous avez quel âge, Johanna ?
32 ans.
Elle est jeune.
Elle est jeune, mais elle est courageuse. Parce que...
On se fait respecter. Hein. Et on a un fort caractère.
Pour vous embêter.
On ne se laisse pas marcher sur les pieds, non. Non, non, il y a de plus en plus hein, de femmes agricultrices hein, maintenant.
Justement, alors ça c'est très intéressant à dire, c'est qu'en Corse, on a beaucoup de femmes, Johanna le dit, qui sont même à la tête de structure. Hein. Je pense à l'Association des producteurs fermiers, où c'est une femme qui dirige ça depuis pas mal d'années. Il y a plein d'exemples d'installations et de femmes qui sont très actives hein, dans le domaine de l'agriculture.
On vous a mis du fromage et de la charcuterie.
Ah, vous nous donnez un petit sac avec tout dedans, voilà. C'est cadeau ?
C'est cadeau.
Trop sympa.
Les agriculteurs, c'est ça. On s'est donné, c'est ça.
Vous savez donner, nous, on sait recevoir.
On sait recevoir, nous aussi, hein. Ne vous inquiétez pas.
Et ben pour l'apéro, on va manger cette charcuterie, ce brooccio et on pensera à vous.
Voilà, merci. Allez, merci, au revoir.
Bonne continuation, bye. Allez. Vous êtes bien sur France Inter, ici sur la place du marché de Corté. Et on parlait des femmes. Et c'est une femme que j'ai rencontrée hier. En arrivant, j'ai foncé à la Citadelle avec Marion Tranois, la directrice des lieux. Et on a grimpé 80 marches de cette Citadelle. Et on a vu toute la vallée à 360 degrés. On était comme deux aigles sur le nid. Émerveillement garanti. Allez, venez, je vous emmène tout là-haut.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Il va falloir qu'on grimpe.
Oui, préparez vos mollets.
Combien de marches ?
Il y a 87 marches en cipolin.
C'est quoi le cipolin? C'est un genre de marbre?
C'est ça. Marbre de la Restonica, de la vallée de la Restonica, juste à côté. Il y a une carrière.
Là, ça. Petite grimpette, là. Alors, c'est ici, notre point de vue à 360 degrés.
Alors là, déjà, on en a une bonne partie, vous voyez.
Ajaccio, c'est où, à droite?
La route qui part vers Ajaccio sur la droite. La route qui va à Bastia sur la gauche. Derrière vous, à gauche, la vallée du Tavignano. Et derrière vous, à droite, la vallée de la Restonica. Mais vous voyez, il y a un nombre incalculable de sommets devant nous, le Tombone. Un nombre de villages aussi qui sont là dans les montagnes. Une carte postale à 360 degrés, on est dans l'espace le plus haut de la ville. Donc vraiment, on a une vue imprenable.
Ce qui est pas mal ici aussi, c'est que les cloches jamais ne s'arrêtent.
Je pense que c'est un glas pour un enterrement.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a Mussolini qui gère la Corse, les résistants sont emprisonnés ici?
Alors oui, il y a eu de l'internement ici de prisonniers politiques, tout à fait. Et on a ici cette grosse porte en bois. En fait, c'était un ancien magasin à poudre qu'on appelait aussi cachot.
Ah, le cachot. Ça sonne comme le cachot.
Attention, le plafond est bas, ne vous cognez pas.
Ah non, mais moi je suis claustro, hein.
Je vais pas fermer la porte alors.
Non, non, ne nous enfermez pas dans le cachot.
Bienvenue d'une corte et France Inter.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois le campanile qu'un jour j'avais laissé un beau matin d'avril. Enfant, j'étais partie, je reviens après tout pour trouver le repos, mais je suis à genoux. Aux cloches, taisez-vous, ne brisez pas mon rêve, cet exilé.
Barbara Carlotti, c'était le retour et magie de France Inter et miracle de Rendez-vous Place du Marché ici à Corté en Corse. Vous nous avez rejoints. Bonjour Barbara Carlotti.
Bonjour Aurélie Spez.
On vous entend sur France Inter et vous êtes là.
J'apparais, de toute façon, dès qu'il s'agit de la Corse, j'apparais.
Vous êtes arrivée quand, hier?
Je suis arrivée hier, ouais.
Alors vous connaissez bien Corté, Barbara?
Alors moi je connais... pas mal Corté parce que mes grands-parents habitaient ici et puis en même temps on est tout près du village de mon père qui est Poggio di Vinaco et donc forcément bah, c'est la capitale Corté.
Pour vous c'est la capitale?
C'est toujours la capitale Corté, enfin, en tout cas pour les Corses de l'intérieur de la montagne, oui je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais.
Elle se situe où votre corsitude à vous?
Dans mon cœur d'abord, je pense, et puis c'est un lien très familial. Donc, Elle se situe à plein de niveaux, c'est-à-dire ça peut être aussi bien la musique que j'ai écoutée depuis l'enfance, les odeurs aussi ici qui sont très importantes, la nourriture, enfin tout ce qui constitue en fait la culture corse, je crois aussi de façon presque sensorielle.
Est-ce que vous vous qualifiez comme une pinsoute ?
Je suis un peu vexée quand on me dit ça parce que j'ai quand même beaucoup de liens avec la Corse et de la famille.
On vous le dit.
Bah, j'ai un accent pointu. J'y peux rien. J'ai grandi en banlieue. Je vis à Paris depuis des années. Donc oui, je suis en partie, mais je suis une autre partie. Il y a une autre partie de moi qui est corse, malgré tout. Donc je suis pas vraiment pinsoute. Je suis métisse.
Métisse. Dans votre album Corse île d'amour, vous reprenez Ô Corse île d'amour, oui, de Tino Rossi.
Oui.
Mais moi, je veux bien un petit a cappella. Là, il y a Barbara qui va nous faire un petit a cappella. Vous venez ? Alors, on est avec tous nos invités ici, qui nous ont rejoints.
C'est une chanson de Tino Rossi, ouais. Une des chansons qu'il a rendue célèbre à travers le monde, parce que c'est un des plus gros vendeurs de disques français, il faut quand même le savoir, Tino Rossi.
Ce n'est pas que Petit Papa Noël.
Il a vendu 300 millions d'albums, ce qui est considérable. Ce n'est pas que Petit Papa Noël, voilà, il faut le préciser. Et je pense que même c'est la Chucharella qui l'a rendue célèbre et qui est une chanson qui est une berceuse corse. Donc Tino Rossi, il est multiple en fait.
Corse île d'amour, c'est une petite carte postale.
Voilà, tout à fait, c'est une petite carte postale. Mais c'est une jolie mélodie. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours, au corps île d'amour. Wow.
C'est beau, hein?
Moi, j'aime bien dire ton maquis sauvage, je sais pas, mais du coup, je le sens, je suis dedans. Là, évidemment, on est en Corse, mais quand je chante ça ailleurs, eh ben, je reviens en Corse, en fait, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a une dimension de lien au territoire, enfin, justement, aux odeurs, aux sensations ici, je crois, très forte, à la terre, en fait. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous et qu'on a une sympathie les uns pour les autres aussi pour ça. Parce qu'on connaît ce territoire-là.
Est-ce que vous connaissez Gérard Guerrieri?
Bonjour.
On dit Guerrieri.
Si vous voulez, oui, ça sonne très bien. Ouais. Ben, ça dépend de.
Moi,
de
j'essaie situation. De mettre un accent, mais j'y arrive pas.
Alors, en général, sur le continent, on dit guerrière.
Ça veut dire guerrier?
Oui, à la base, oui.
Et vous êtes un réalisateur de cinéma guerrier?
Oui, beaucoup.
C'est vrai que ça canarde pas mal avec vous, hein?
Oui, c'est vrai, oui, c'est ce qu'on me dit souvent.
Vous êtes réalisateur, vous faites des films made in Corsica, vous faites des films de genre, tendance série Z, avec du sang, de la chic et du molar, des flingues, des braquages foireux, des politiciens véreux, une esthétique fait maison, et vous transformez la tragédie corse en farce.
Oui, vous avez quasiment tout dit. On peut voir les choses comme ça, oui. Bon, maintenant, c'est vrai que mes films ont un côté assez fable. J'aime bien mélanger le régionalisme avec l'universel, en fait. C'est souvent basé sur un choc des cultures.
Fable un peu gore.
Oui, il y a Fin de Reine quand même, où l'ouverture est assez trash. Mais bon, en général, il y a avant tout de l'amour et des sentiments, malgré tout.
On va écouter un petit extrait, justement, de Fin de Reine, un de vos longs métrages, qui se situe dans une Corse devenue une république autonome, entre les mains d'un politicien pourri qui s'appelle Brutus Strozzi, qui est lancé dans une élection présidentielle qui semble avoir gagné d'avance et qui est soutenu par le chef de la mafia locale.
Nous avons enfin une chance à saisir pour la première fois de notre histoire. Des élections libres dans une Corse, certes, confédérée à la France, mais une Corse enfin autonome. Et ensemble, nous gagnerons les élections. Que dis-je, les élections? Ma nomination. Car je gagnerai. Et nous gagnerons parce que nous sommes les meilleurs.
Gérard, on dit que vous êtes le Quentin Tarantino corse.
Ben, disons, quelque part, oui, je l'assume parce que j'aime beaucoup Quentin Tarantino. Mais ceci dit, moi, je me considère pas vraiment comme le Quentin Tarantino corse. Parce que bon, on a dit ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coups de feu. Et puis des dialogues assez alambiqués, mais je pense pas que j'ai, on peut pas dire que j'ai le même style. Enfin, moi, je me, voilà quoi. Il y a des rapports sur certains détails, peut-être. C'est autre chose quand même.
Mais en tout cas, vous les épargnez pas, hein, les Corses.
Ben, en fait, j'épargne personne. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver un personnage positif dans mes films.
C'est, c'est assez horrible.
Oui, oui.
On a l'impression quand même que vous vous moquez pas mal. Hein.
Ben, je suis corse en même temps, donc ça va.
Vous avez le droit.
Oui, en quelque sorte. Oui.
Vanilla Bernard Léoni, vous avez joué dans un de ses films. J'ai pas encore vu la scène, mais c'était un des plus beaux jours de ma vie. Non, en fait, moi, j'adore en fait le cinéma de Gérard, qui me paraît enfin une espèce d'étrangeté absolue. Mais Gérard lui-même me paraît une étrangeté absolue. Ça fait partie de ses, enfin voilà, de ces personnages que la Corse arrive à générer de façon un peu voilà spontanée et du coup c'est une création vraiment hyper particulière les films de Gérard. C'est du film de genre mais pour lesquels il faut avoir tous les codes de la corsitude et donc du coup voilà ça fait un mélange très chouette et moi j'adore.
On peut dire que c'est du cinéma indé.
C'est même du cinéma indépendant, je dirais. C'est, ouais.
Il y a une économie pour le cinéma indépendant.
Pas du tout.
Comment vous faites,
hein? Il y a ces chers messieurs de la collectivité, en général, qui de temps en temps nous aident. Parfois oui, parfois non, ça dépend des jours de la lune. Et sinon, on se débrouille avec nos moyens en général. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a un côté assez terre vierge, ce qui fait que les gens sont assez ouverts pour la plupart. Et voilà quoi. Et quelque part, c'est aussi notre atout, ce côté aventureux qui nous relie au, enfin, ce qui est pour moi le vrai cinéma, quoi. Voilà quoi. Disons, c'est du cinéma fait maison.
On papote, mais on va boire l'apéro peut-être.
Ok, oui.
Non, ça vous dit un petit apéro,
petit apéro.
Antoine Guelfucci, bonjour. Vous nous avez amené le vin.
Il fallait un liant. On a trouvé du liquide. Pourquoi pas du vin? Je fais du vin et ça fait partie de la culture corse, oui, tout à fait. Des cépages endémiques, des vins qui font la fête et pas des grands vins, mais juste des vins qui rassemblent les gens.
Un vin de Corté?
Je suis le seul vigneron à Corté.
Et ce vin, il a un très joli nom, Antoine. Il s'appelle Dolce d'Orsu.
Dolce d'Orsu, c'est une vendange tardive, donc doux.
Douceur d'ours.
D'ours, parce que c'est le surnom des Cortenais, Baesi l'Orsu. La vendange tardive, c'est pas tout à fait le vin que l'on faisait à Corté, mais une petite douceur dans le pays de l'ours, why not?
Une petite douceur dans le pays de l'ours. On a installé une table ici, sur la place du marché, avec des verres à vin, plein de choses à déguster. Et avant de boire l'apéro tous ensemble, on va écouter une autre douceur d'ours. Justement, c'est Ours et M. Le morceau s'appelle Petit Jeu.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens,
on laisse.
C'est idiot comme un duel. Qui est la plus bête, qui est la plus belle? Petit jeu, petit jeu ne comprenait rien. Et aujourd'hui,
petit jeu.
ce petit jeu. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu. Petit, je ne joue pas.
Joker.
Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu.
Allez, chaud.
C'était Ours et M, petit jeu.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Vous êtes toujours sur France Inter. Nous sommes à Corté, en Corse, au centre, dans les terres. Et on est sur la place Padoue. On a installé une petite table, du vin, de la charcuterie, du fromage. On est tous ensemble ici et on va se prendre un petit apéro.
On va commencer par un petit vin d'apéritif qui est un vin d'orange, puisque en Corse nous avons beaucoup d'agrumes. Et mon grand-père et ma grand-mère faisaient leur propre vin apéritif et on faisait donc un vin d'orange. Au village, on faisait aussi beaucoup de vin de mandarine. Mais j'ai voulu garder la recette du vin d'orange parce que c'était pour moi mon souvenir de jeunesse. Voilà.
Il a une très
avec
belle couleur.
Zeste d'orange. Voilà.
Alors, il est comment?
Je ne l'ai pas encore goûté, mais rien qu'à l'odeur, il nous fait déjà voyager.
Mais il reste léger. Et l'arôme d'orange sort bien, donc c'est très agréable, très frais.
À la vôtre.
À la vôtre, merci.
Trois quarts banane.
À Zaloud.
À Zaloud.
À Zaloud. Zaloud.
Je vous écoutais tout à l'heure parler d'autonomie, de nationalisme. Je suis pas du tout nationaliste, je suis indépendantiste et je l'assume. À un moment donné, malheureusement, il va falloir parler de décolonisation parce que je pense que la colonisation, elle a commencé le jour où on a permis aux Corses de rester dans l'indivision. Une indivision qui ne se règle pas dans la première ou dans la deuxième génération devient insoluble, surtout lorsque l'on fait beaucoup d'enfants. Et nous sommes dans la fin du processus, c'est-à-dire qu'il est devenu impossible pour une famille qui a beaucoup de biens de sortir de l'indivision en gardant les biens. Et donc nous sommes dans le fin de processus, c'est-à-dire que la majorité des biens sont à la vente et donc achetés par des gens qui viennent de l'extérieur. C'est une colonisation de peuplement par une autre entité que les locaux.
Voilà. Et le colonisateur, c'est qui alors?
Ben malheureusement, c'est l'appétit de l'argent. Mais malheureusement, ça arrive sur l'île de Ré, ça arrive de partout. Malheureusement, les biens ont pris une telle valeur que le local n'aura pas les moyens de récupérer.
Jean-Michel Sorba, quand on n'a pas la chance de pouvoir travailler sur une terre familiale et qu'on est un nouvel arrivant ici, même venu de l'extérieur, ça coûte hyper cher.
Tout à fait. Ben, là, pour le coup, c'est une chance, mais c'est quand même beaucoup de travail. Hein, parce que pour monter une exploitation, comme on le voit avec Antoine et tout à l'heure avec Johanna, c'est énormément d'efforts, c'est une vie à s'installer. Donc ceux qui n'ont absolument rien, c'est-à-dire qui sont confrontés au désordre foncier, hein, tel que l'a rappelé Antoine, et qui n'ont pas accès à la terre, ça devient très très compliqué, voire impossible. Il y a les secteurs d'activité qui sont complètement verrouillés. Par exemple, le secteur de la viticulture et de la clémentine, si vous n'êtes pas fils d'exploitant, c'est quasiment impossible de s'installer aujourd'hui. Hein. Et alors, pour le coup, il y a quand même des politiques publiques qui sont assez intéressantes, à travers le PADUC, le plan d'aménagement du développement de la Corse, durable, il faut rajouter durable, qui a prévu de faire des réserves foncières, des espaces stratégiques agricoles qui préservent une centaine de milliers d'hectares en Corse pour l'agriculture. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire exploser, à déconstruire ces règlements et le PADUC pour pouvoir continuer à spéculer comme sous l'Ancien Régime. Et ça, effectivement, il y a des questions purement politiques à poser au bon endroit.
On va se détendre avec un peu de musique. Pierre Gambini. Pierre Gambini, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Je suis pas sûr qu'on puisse se détendre avec moi, mais bon.
Ah bon? On va se tendre?
Non.
J'espère
non,
pas non plus.
On va faire, tout faire pour se détendre en tout cas.
Vous, votre famille, elle est corse?
Oui. Je suis originaire de Corté.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans la famille Gambini?
Alors, mon père, qui n'est plus là, a travaillé à la poste. On appelait ça les PTT à l'époque. Et ma mère n'a pas travaillé. Donc, en fait, je viens vraiment je suis issu d'une famille, on va dire, de prolétaires. Hein. Donc, voilà, on a été. Mes parents ont vécu à Paris quelques temps parce qu'il fallait partir à l'époque pour pouvoir travailler quelques années sur le continent avant de revenir. Et puis, quand ils sont revenus, ils se sont installés à Bastia. Et à Bastia, je suis né dans un quartier qui est un quartier sud de Bastia, qui s'appelle Loupine, qui pour moi est une ville dans la ville, qui est même un état dans la ville. Donc c'est un quartier très populaire et dans lequel je me suis, éduqué et dans lequel j'ai pu accéder à certaines valeurs, à certains codes, à une façon de vivre aussi qui n'existe plus aujourd'hui, avec un lien social assez fort, avec... je pouvais à l'âge de 6-7 ans être libre dans les rues et être en compagnie d'adolescents de 15, 16, 18 ans sans que ça pose problème, avec toujours une bienveillance, en voyant aussi des choses dures, hein, des choses de la vie qui étaient assez dures, notamment dans ce quartier.
Quoi par exemple ?
La drogue, le sida. Moi j'ai connu les années 80, donc le quartier a été fortement impacté à ce moment-là. Quand on a 6-7 ans, qu'on descend dans des caves où il y a des fêtes le mercredi après-midi et qu'on voit quelqu'un se défoncer, ça, on va dire que ça marque quand même un peu les esprits. Voilà. Il n'y avait pas que ça, bien entendu. Hein, il y avait aussi des choses très, très positives, notamment une jeunesse, 300, 400 enfants dans un quartier avec qui on s'amusait, avec qui on faisait des choses incroyables. Enfin, j'en garde vraiment un très bon souvenir au final, mais avec des choses marquantes, avec des traumatismes aussi, comme la pédophilie aussi. Hein, on peut en parler, hein, des choses que j'ai pu approcher de près. Donc c'est des choses en fait que j'ai pu voir quand j'étais enfant et adolescent. Voilà. Mais c'était pas facile de s'extraire justement d'une culture populaire qui baignait, on peut pas le cacher, dans une certaine forme de violence. Moi je pense que l'éducation parentale, le fait d'avoir des grands frères aussi, le fait m'a quand même beaucoup épargné, je dirais, d'échappatoires comme la vente de drogue ou pire, même des fois les braquages ou des choses comme ça. Mais c'est des choses que j'ai côtoyées. J'ai eu des amis qui eux ont sombré là-dedans.
La musique, elle vous a apaisé, elle vous a soigné.
Et la musique m'a énormément sauvé, effectivement. Ouais.
Un peu de musique avec vous, Pierre Gambini, à la guitare, et Barbara Carlotti.
En fait, on va chanter une chanson d'un album de Pierre que j'adore, qui s'appelle, excuse-moi Pierre si je le dis mal, mais Albé Systématiqué, c'est ça ?
Non, très bien.
Que j'ai découvert quand j'ai rencontré Pierre dans les années 2010-2011, il est sorti en 2011. On s'est rencontrés à ce moment-là, et j'ai adoré cet album, parce que Pierre, il est capable de faire quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'il est hyper ouvert à... Bon, c'est un excellent musicien, évidemment. Il a une voix vraiment merveilleuse. Enfin, moi, j'adore sa voix. Il a vraiment une voix d'or. Il chante extrêmement bien. Et en même temps, il arrive à mélanger justement de la musique électronique, de la pop, et aussi une façon de chanter en Corse aussi qui est très qui est très corse. Mais en même temps, tout ça fonctionne. Et en fait, je trouve ça hyper beau d'arriver à faire ça, à ouvrir en fait les territoires de la chanson corse. Donc on va chanter une chanson à lui qui s'appelle
Un Homme Ordinario.
Un homme ordinaire.
Un homme ordinaire, en fait, c'est vraiment. Alors, c'était écrit avant la venue des réseaux sociaux, mais du coup, ça parle, je dirais, de quelqu'un qui se plonge inconsciemment dans la société de consommation et qui finalement n'est plus rien.
On va se mettre sous les platanes sur un petit banc, tranquillou.
Et voilà, on va chanter.
Et voilà, on va chanter, c'est à vous.
Arrive l'été senza pensare per via di gelosie di se io so vivo vestuto come l'altri da lui. No.
Ma chère Barbara Carlotti, vous allez être en concert ici en Corse tout le mois de juillet.
Oui, avec mon groupe et des musiciens corses formidables, Pierre Gambini, Antoine Silvestri et Carmen Belgoder. Le 16, Ajaccio Lazaret. Le 17, à Pietrosella sur la presqu'île d'Isolelle. Le 18, à Altagène. Et le 19, à Pigna, au festival Festivoce.
C'est voilà. Dit.
C'est dit, merci beaucoup.
Bon, eh ben, la charcuterie, c'est là-bas.
Donc là, on va attaquer la petite terrine de porc corse. Et le porc corse est rouge. La viande est rouge et non pas blanche.
Elle est super voilà. Belle, cette terrine. Tiens. Tenez, je vous mets ça sur un petit
plaisir.
Bout de pain.
Voilà.
Allez-y, allez-y. Ah, c'est à moi ?
Je sais faire ça pour les femmes.
Mm-hmm.
C'est pas macho, un corse.
Mm-hmm.
C'est juste attentionné.
Ah, bah, c'est la meilleure terrine de sanglier de tout le Cortenay. Tu vois, c'est ça qui est bon.
C'est pas gras, ça fait pas grossir.
C'est pas gras, ça fait pas grossir. Jamais.
Il y a la myrte qui neutralise toutes les graisses.
Ouais.
Mais c'est votre maman, Barbara, qui a fait tout ça ?
La confiture de figue et la terrine, ouais.
Super. Comment elle s'appelle, votre maman ?
Elle s'appelle Monique Carlotti.
Merci, Monique. Hein. Comment on dit merci à tous en Corse, Jean-Michel Sorba ?
Grazie a tutti, grazie a tutti.
Oh, je peux dire grazie quand
même. Grazie.
Grazie a tutti. Così, bravo. Là, il est tout bas. Grazie a tutti. À la réalisation, c'était Juliette Medeviel. À la préparation, Raphaël Pluxbar. Merci à Corté au Café de France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et demain, vous retrouvez Antoine Lee à Fécamp.